ça c'est la conduite en ciment, et vous voyez l'eau passée à l'intérieur. Et plus bas on la retrouve, mais avec un diamètre plus petit par contre. C'est dans les années 30 je crois. Et ça ouais, c'était des morceaux de ciment, de bulles de ciment d'un mètre qui les assemblaient sur place. Les Romains, eux, c'était des aqueducs. Et quand on a fait les travaux pour reprendre toute la conduite, on y est tombé sur des morceaux. Et donc c'est tout du bâti, et puis des grosses dalles par-dessus. Et tout bien enduit, propre.
On est loin de la source ou pas là?
Oui, là vous avez encore, je dirais, facile, 2-3 km pour arriver. Et on fait en sorte de pas faire trop de traces quoi. On n'est jamais à l'abri parce que vous avez quelqu'un de mal intentionné, il balance quelque chose dedans. Le temps que vous en apercevez, il y a toute une commune qui est malade quoi.
Oui c'est ça. Et oui c'est une responsabilité quand même. Hein.
C'est ça. Ouais. Mmh. Des fois on dort pas très bien quoi parce qu'il y a des soucis sur un réseau et pour faire en sorte que tout le monde ait l'eau. Et qu'elle soit de bonne qualité, ben voilà, il y a des moments où c'est pas toujours facile. Hein.
Quand on a acheté le terrain où nous sommes, au Floreau, en bas du terrain, il y avait un cabanon, et sous le cabanon, il y a un aqueduc romain. Voilà, donc je me suis renseigné, et puis c'est parti de là. Donc mon intérêt pour l'histoire d'abord de l'eau, et puis après l'histoire en général. Quoi. On sait que les Romains, ils avaient vraiment... c'était vraiment le luxe pour eux d'avoir de l'eau, donc ils utilisaient tous les moyens nécessaires pour avoir de l'eau. Donc on sait déjà qu'à Die, il y avait deux aqueducs qui amenaient de l'eau de Romeillé, de la source de Railly, et de l'eau de l'abbaye de Valcroissant, donc pour alimenter les fontaines et les bains publics de la ville romaine, quoi, de De Augusta. Et par contre ensuite, à l'époque des évêques, et plus tard, donc toutes ces installations ont été abandonnées et il y a eu vraiment de gros problèmes pour amener de l'eau à Die, quoi. Il a fallu creuser des puits, il a fallu prendre sur des petites sources qui n'étaient pas bien fiables. Pendant des siècles, ça a duré comme ça, quoi. Alors que la science romaine avait été complètement abandonnée, en fait.
Dès qu'on parle d'une ville, l'eau fait partie du récit. C'est-à-dire qu'une ville, c'est forcément des problèmes liés à l'eau, puisqu'il y a forcément une rivière ou deux qui passent dans le secteur. En général, on s'installe pas très loin de l'eau, ce qui peut poser quelques petits problèmes, comme on s'en aperçoit de temps en temps. Et pour l'époque romaine, ce qui m'intéresse, de toute façon, on va amener de l'eau en ville avec des aqueducs. Et là, ça laisse des traces dans l'architecture, dans l'urbanisme, donc ça commence pour moi à être vraiment intéressant. Donc pour l'instant, on a la trace de deux aqueducs différents, un qui prend son eau aux sources de Railly, comme aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a refait les canalisations là, il y a quelques années, on est retombé de loin en loin sur le trajet de l'aqueduc romain, qui est plutôt bien conservé. J'ai pu me balader à l'intérieur. Avec une pente qui est sensiblement la même au départ, c'est-à-dire une pente de l'ordre de 15%, ce qui est énorme. C'est la pente actuelle, sauf que on n'a pas les mêmes moyens techniques que les Romains, donc nous on arrive à bien encaisser ça. Pour les Romains, il y avait des ruptures de charge régulières, de façon à éviter que l'eau prenne trop de vitesse, et donc trop d'énergie. D'un côté, Railly, alors je ne sais plus en kilomètres, c'est 5-6 kilomètres. Et de l'autre côté, Valcroissant, c'est un petit peu plus, doit être 7-8, à peu près. Donc là, on est plutôt dans des petites portions, simplement on est dans les Alpes, enfin pré-Alpes, mais il y a beaucoup d'eau. Donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher très loin. Ça se termine avec des châteaux d'eau, donc des répartiteurs. Enfin, château d'eau, c'est un gros bassin avec plusieurs prises d'eau dedans, avec des robinets. Et puis on décide d'ouvrir pour alimenter les différents tuyaux qui vont vers les différentes fontaines de la ville. Alors avec un système qui est le même partout pour l'époque romaine, c'est-à-dire que l'eau va servir en priorité à alimenter les fontaines publiques, puisque c'est là que la majorité des habitants vont aller se servir en eau journellement avec leurs cruches, leurs amphores vides, enfin, etc. Et s'il y a assez d'eau, on va commencer à alimenter aussi d'autres types de fontaines plus décoratives, qui restent publiques. Les thermes, bien sûr. Et puis en dernier, s'il y a encore assez d'eau, ça va servir aussi à alimenter les fontaines privées. Puisque les maisons les plus riches ont l'eau courante. Alors après, tout ça finit à l'égout. Donc une ville romaine, c'est aussi des égouts enterrés. C'est-à-dire des canalisations souterraines qui passent sous les rues en général, qui recueillent les eaux usées, donc qui sortent des latrines de préférence, les évacuer, les trop-pleins des fontaines, mais uniquement les trop-pleins, et puis un petit peu, enfin, il y a un effet chasse chaque fois qu'il y a un orage ou qu'il pleut. Il n'y a pas de séparatif avec les pluviales. Par contre, il y a une bonne partie des pluviales qui finit dans la rue, quand même. C'est-à-dire que toutes les pluviales ne sont pas reliées à l'égout. Et donc, bah, les égouts, après, ça prend la pente et ça se dirige vers la rivière la plus proche. Donc, ça fait, ouais, fait longtemps qu'on rejette nos déchets dans les rivières. Simplement, pour l'Antiquité, il y a peut-être moins de monde qu'aujourd'hui. Donc, le problème se posait différemment. L'organisation romaine, l'Empire, ça tout le monde connaît, un machin qui fait tout le tour de la Méditerranée, c'est immense en termes de territoire, c'est plus grand que l'Europe actuelle, hein, l'Empire romain, je rappelle. Et après, l'Empire lui-même se répartit en provinces dans lesquelles il y a des cités, donc ici on est dans la cité des Vaucons, et la cité des Vaucons, elle s'administre elle-même. Mais pareil, il y a un pouvoir politique, c'est l'Assemblée locale, l'équivalent, on pourrait dire, du conseil départemental aujourd'hui. En termes de territoire, c'est à peu près l'équivalent, même si c'est un peu plus grand qu'un département. Assemblée locale qui va prendre des décisions pour l'ensemble du territoire. Donc avec une notion de bien public d'une part, puisqu'ils gèrent eux du bien public, pas du bien privé. Et puis une notion d'aménagement du territoire. Il y a une conjonction entre des acquis techniques qui permettent de faire les choses, et puis une forme de volonté politique qui permet de décider de faire les choses. Donc dès qu'on a cette conjonction-là, on va pouvoir faire un certain nombre de réalisations collectives, communautaires. Et puis dès qu'on n'a plus cette conjonction-là, bah, ça s'arrête. Un aqueduc, ça sert à tout le monde. Et donc à partir du moment où il y a une sorte de puissance publique, c'est-à-dire un état centralisé avec des fonctionnaires, ben, y a des gens qui vont s'occuper de l'aqueduc pour tout le monde. À partir du moment où on sort de ce système-là, c'est-à-dire le Moyen-Âge, on sort de ce système, et où les choses sont régies par des petits seigneurs et des petits propriétaires locaux, ben, du coup la notion de bien public se perd, et la notion de personne au service du bien public se perd avec. Plus d'entretien. Une canalisation, si vous ne l'entretenez pas, à la première occasion, elle va se remplir de boue, puis de sable, puis de feuilles, puis de etc. Et ça finit par se boucher, ça ne fonctionne plus. Petit glissement de terrain, n'importe quoi, mais à partir du moment où il n'y a personne pour remettre en état, ça s'arrête. Alors, ce dont on est sûr, c'est que début 4e siècle, quand le rempart est construit, les aqueducs fonctionnent encore, puisque le rempart en tient compte. Sinon, il aurait tout écrasé. Donc c'est encore entretenu à ce moment-là. Quand c'est que ça cesse de fonctionner, j'en ai aucune idée. Je dirais sans planter dans les deux siècles qui suivent. Et après, par quoi c'est remplacé? Ben, chacun se débrouille avec l'eau qu'il récupère dans les toitures, des citernes creusées ou en extérieur, des barriques, et puis voilà. Et sinon, il y a quand même quelques sources sur Dyn. Il y a sans doute beaucoup de récupération d'eau de toiture qui se met en place. On va peut-être pouvoir recommencer doucement à parler de biens publics et de services publics pour le Moyen-Âge à partir du XIIIe siècle, mais c'est vraiment embryonnaire. Donc ça va se développer petit à petit à partir de là, quoi. en fonction des besoins des habitants et de la réponse que le conseil de la communauté des habitants va pouvoir apporter. Ou de la libéralité de certains seigneurs. Les communautés d'habitants qui se forment, alors selon les cas, entre le XIe et le XIVe siècle, hein, ça peut être très tardif, parce qu'en fait c'est le seigneur qui, à un moment, va être acculé à lâcher du lest et à autoriser des communautés d'habitants à se prendre en charge. C'est aussi l'émergence de la bourgeoisie. Donc les gens qui mutualisent leurs propres compétences, qui décident de s'imposer mutuellement aussi pour pouvoir avoir des moyens financiers pour faire des choses dans un but commun, collectif. Enfin, en gros, les collectivités se mettent en place, quoi. C'est-à-dire que bah, les gens se rendent compte qu'à plusieurs, on a à faire des trucs que tout seul, on peut pas faire. On en arrive doucement au 19e. Et là, par contre, on a pas mal de fontaines qui se sont remis en place.
La source de Railly, qui vient de la vallée de Romeyé, a été recaptée au XIXe siècle, hein, en 1860, donc par un maire qui a décidé de ramener de l'eau saine à la ville, parce qu'avant, il prenait de l'eau sur le canal des fonds d'eau, par exemple. Il y avait une prise d'eau pour la ville, mais l'eau n'était pas toujours saine. Dès qu'il pleuvait, elle était trouble, et puis avec beaucoup de saleté dedans, des feuilles mortes, ainsi de suite. Donc en 1860-64, je crois, ils ont recapté la source de Railly avec de nouvelles conduites pour aménager des fontaines en ville, parce que tout le monde n'avait pas l'eau courante chez eux, bien sûr, c'était que des fontaines. Et puis voilà, comme ça, l'eau est revenue en ville, à peu près en suivant la même conduite qu'avaient fait les Romains dans l'Antiquité, quoi.